Le jour le plus important de l'histoire de l'humanité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vous souhaite une sainte et joyeuse fête de l'Annonciation qui nous remémore l'aboutissement de millénaires de supplications, de lamentations, de prières et de larmes du peuple d'Israël. L'humanité, pourtant déchue par le péché d'Adam, par l'infinie miséricorde divine, s'est vue promettre un sauveur, un rédempteur qui rachèterait ces innombrables fautes qui ont profondément blessé la majesté de Dieu. Le Tout-Puissant étant juste, il n'était pas convenable que notre dette soit réglée autrement que par un holocauste proportionné à l'ampleur de nos fautes. Pour mesurer la laideur du péché, il faut considérer la largeur, la longueur, la profondeur de la bonté de l'objet offensé, qui est Dieu. Et c'est pourquoi seule l'incarnation et le sacrifice de l'agneau immaculé pouvaient nous rendre à nouveau propices au Père éternel. Le mystère de l'incarnation, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, est au cœur de notre vie chrétienne, et plus particulièrement, est le mystère propre de la dévotion mariale montfortaine et du Saint-Esclavage. Je tâcherai de mettre en lumière en cette heureuse occasion, par différents biais, la grâce ineffable que nous a fait le bon Dieu, en nous rachetant par le sacrifice propitiatoire de son Fils unique. Je vous éclairerai également sur le rôle central de la Très Sainte Vierge Marie dans l'œuvre de la rédemption et la réponse de notre volonté qu'appelle une telle délicatesse de la Très Sainte Trinité. Comment Dieu se sert de Marie dans l'incarnation? Au numéro 17 du traité de la vraie dévotion mariale, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous dit « Quelque demande qu'aient fait les patriarches et les saints de l'ancienne loi pendant 4000 ans pour avoir ce trésor, il n'y eut que Marie qui l'ait mérité et trouvé grâce devant Dieu par la force de ses prières et la hauteur de ses vertus. » Fin de citation. Il y a une formulation que je me plais à entendre, c'est celle qui affirme que notre Sainte Mère a hâté la venue du Sauveur. Si l'on se focalise souvent sur son fiat qui a permis l'incarnation, il est bon de considérer ce qu'elle a pu mériter avant même la venue de l'ange pour faire fléchir le cœur de Dieu. Depuis son immaculée conception dans le sein de Sainte Anne, à l'Annonciation, elle a répondu positivement à chacune des grâces que Dieu lui a octroyées, multipliant ainsi ses mérites dans des proportions qui dépassent notre entendement. « Vous avez plus de vertus, Sainte Vierge, que le ciel n'a d'étoiles », dit la quatrième antienne de la petite couronne de la Sainte Vierge. L'obéissance, la pureté, la sagesse, la force, la foi, l'espérance, la charité, et par-dessus tout l'humilité qui est la gardienne des vertus, sans laquelle toutes les autres sont absolument vaines et stériles, toutes ces vertus ont été exercées au plus haut degré de perfection par Notre-Dame. Fille chérie du Père, mère aimée du Fils, épouse féconde du Saint-Esprit, elle a le privilège d'une relation on ne peut plus intime avec chacune des personnes de la Très-Sainte Trinité. « Venez, mon élu, et je vous établirai sur mon trône, car le roi s'est épris de votre beauté. » Cantique des Cantiques. Le Tout-Puissant a fondu devant son humble servante et a permis qu'elle porte la lumière du monde en son sein, après lui avoir demandé son consentement par l'entremise de l'ange Gabriel à qui elle répond « Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. » Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Voyons maintenant quel est le lien entre le Saint-Esclavage Montfortin et le choix de Dieu de s'incarner en Marie. Esclavage d'amour, esclavage volontaire. Dieu fait homme à trouver sa liberté à se voir emprisonné dans son sein. Traité de la vraie dévotion mariale, numéro 18. Quel mystère et quelle sagesse de Dieu que sa dépendance à Marie et à Joseph lors de sa vie terrestre. Comme pour nous montrer la nécessité de l'ordre, de la hiérarchie et de la famille, il nous montre la voie en se montrant parfaitement soumis aux parents qu'il s'est choisis, lui qui a fait le ciel et la terre. Oh, qu'on glorifie hautement Dieu quand on se soumet pour lui plaire à Marie, à l'exemple de Jésus-Christ, notre unique modèle. Traité de la vraie dévotion, numéro 19. Saint Louis-Marie de Montfort rappelle qu'il existe trois sortes d'esclavage. Le premier, l'esclavage de nature, auquel sont soumis toutes les créatures à leur créateur, qu'elles le sachent ou non, qu'elles le veuillent ou non. Deuxièmement, l'esclavage de contrainte, à laquelle sont soumis les damnés, les âmes qui peuplent l'enfer éternel et les démons, qui, malgré leur haine pour le Tout-Puissant, sont soumis à sa divine justice. Troisièmement, l'esclavage d'amour et de volonté. C'est celui par lequel nous devons nous consacrer à Dieu par Marie, de la manière la plus parfaite dont une créature puisse se servir pour se donner à son Créateur. Ce sur quoi je veux insister, quoi qu'en disent les fausses philosophies libérales, c'est que nous sommes des esclaves, qu'on le veuille ou non. Par la grâce de Dieu, nous pouvons choisir l'esclavage d'amour à un maître et un père qui ne veut que notre félicité et notre bien, ou au contraire, comme le monde nous y incite, nous pouvons préférer l'esclavage du péché, de la chair et du démon. Cela nous rappelle à quel point la liberté n'est bonne que si elle est orientée vers sa juste fin qui est le bien. La liberté d'offenser et de crucifier notre Seigneur, la liberté de transpercer d'un glaive le cœur de Marie, la liberté de perdre son âme pour l'éternité, la liberté de nuire au prochain, la liberté de préférer sa propre volonté à celle de Dieu, de préférer la matière à l'esprit, la chair à l'âme, n'ont que peu d'attrait aux yeux d'un véritable chrétien et être prêt à tout pour glaner ses fausses libertés, est un signe d'infirmité morale et spirituelle. Rien de plus suave à l'âme que d'être un esclave de l'auguste mère de Dieu. Quand bien même nous serions un mauvais esclave, comme c'est mon cas, à cause de notre corruption et de notre concupiscence, le lait de sa grâce, l'abandon à sa conduite, l'espérance en ses vertus et au mérite de notre Seigneur sur la croix permettent un progrès spirituel surnaturel dont notre seule faiblesse serait bien incapable. Ce progrès a pour fin de former en nous le Christ afin qu'il agisse par notre entremise. Il faut pour cela se montrer fidèle à cette sublime dévotion et en gravir les échelons par le quart d'heure d'oraison quotidien, la récitation du rosaire et l'assistance assidue au saint sacrifice de la messe. Plus le Saint-Esprit a trouvé Marie, sa chère et indissoluble épouse, dans une âme, plus il devient opérant pour former Jésus-Christ en cette âme et cette âme en Jésus-Christ. Traité de la vraie dévotion, numéro 20. L'imitation de la bienheureuse Vierge Marie. La discrétion de Marie dans les Saintes Écritures est troublante. Nous n'avons qu'une quantité bénigne de ses sages paroles et de ses actes, mais elle forme à elle seule une loi suffisamment juste et intégrale pour nous mener au ciel, par son imitation ou par l'obéissance au seul ordre qu'elle nous a donné aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Jean 2, 5. Concernant l'imitation, concentrons-nous sur l'événement que nous fêtons aujourd'hui, à savoir l'Annonciation. L'ange étant venu vers elle, lui dit « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. » Celle-ci, l'entendant, fut troublée de ses paroles, se demandant ce que pouvait bien signifier cette salutation. Fin de citation. Pourquoi ce trouble de la très sainte Vierge? C'est le fruit de son humilité, bien entendu. Elle s'est toujours considérée comme la plus vile des créatures, la plus indigne, et c'est cela en particulier qui touche le cœur de Dieu, la considération de sa faiblesse. Lorenzo Scupoli, dans Le combat spirituel, nous invite à nous défier de nous-mêmes pour n'espérer qu'en Dieu. C'est ce que notre mère pratiquait déjà à chaque instant en sa vie terrestre, et le fait que l'ange du Seigneur l'appelle, pleine de grâce, bénie entre les femmes, l'a plongée dans une profonde confusion. Après que Saint Gabriel lui ait explicité le plan de Dieu, la conception dans son sein d'un enfant qui sera nommé Jésus, fils du Très-Haut, et qui régnera sur le trône de David et dont le règne n'aura pas de fin, voici sa réponse. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Elle avait, malgré ses fiançailles avec Joseph, prononcé un vœu de virginité, ce qui pour l'époque, au sein du peuple d'Israël, n'était pas un mince sacrifice. Il signifiait pour une femme qui le prononçait de renoncer à la possibilité de porter le Rédempteur, ce dont toutes les femmes d'Israël rêvaient au fond d'elle. Et pourtant, c'est son désintéressement, son amour de la vie cachée, son désir d'être connu de Dieu seul, qui lui attira le Verbe, qu'il a choisi pour sa mère. On ne décèle dans sa question pas une once de révolte, car sa foi l'a guidée, ni un brin d'orgueil en cherchant à expliquer l'inexplicable par la seule lumière de sa raison. Elle avait simplement besoin d'explications supplémentaires pour comprendre ce que la majesté divine attendait d'elle, et elle demanda humblement cette précision. L'ange la rassure alors en lui apprenant que sa virginité n'en sera point entachée, car c'est par l'opération du Saint-Esprit qu'elle deviendra féconde, et non par l'acte habituel permettant la conception d'un enfant. Une fois cette interrogation dissipée, sans négocier ni hésiter, pourtant bien consciente des conséquences, elle consent, et ainsi, Jésus-Christ, la sagesse éternelle, fait sa demeure dans l'arche de son sein. Quelles leçons concrètes pouvons-nous tirer de ce dialogue entre l'ange et la très sainte Vierge? Il nous faut, pour la suivre, avoir confiance en Dieu, nous soumettre à sa volonté, rester toujours humble devant lui, ne jamais douter de la bonté de son intention quand bien même notre raison serait troublée. Il faut aller jusqu'au sacrifice et nous abandonner à sa providence. Le révérend père de Chivray, dans l'un de ses sermons, disait que notre vie chrétienne est une myriade d'annonciations qui ne trouvent malheureusement pas toujours écho par notre fiat, notre consentement. Alors examinons chaque jour, cherchons dans la retraite, le silence et la prière, la volonté de Dieu. Parlez, Seigneur, votre serviteur écoute, disait le prophète Samuel. Et tâchons de répondre toujours à celle-ci, à savoir la volonté de Dieu, par ces mots. Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Voici quelques moyens pour progresser dans notre qualité d'esclave. Comme nous le savons, dès lors que l'on désire s'améliorer dans la vie spirituelle et donc dans les vertus qui nous sont corrélées, il ne s'agit pas simplement d'agiter de vagues promesses et de vains principes tels que « je vais essayer d'être plus tempérant, moins orgueilleux », mais bien de prendre des moyens concrets, proportionnés et raisonnables. Notre fidélité à ces résolutions sera alors une condition sine qua non pour arriver à notre fin, qui est de plaire à Dieu. Je n'en ai pas l'autorité, mais je me permets humblement de vous partager cette maxime que je me murmure souvent pour vaincre la tentation de m'attiédir. Stagner, c'est régresser. Concernant le progrès dans la dévotion au Saint-Esclavage, qui est d'une exigence considérable, il faut le reconnaître, j'ai déjà évoqué dans mon billet du 11 février le triomphe de la V, quantité de pratiques de piété salutaires, telles que la petite couronne de la Sainte Vierge ou la dévotion aux 5 premiers samedis du mois. Dans mon éditorial du 22 février « Vivre marialement le carême », je soulignais l'importance du perpétuel recours à Marie pour toujours agir avec, en, par et pour elle, afin de vivre avec, en, par et pour Jésus-Christ. Dans mon introduction à la dévotion mariale Montfortaine du 28 janvier, j'indiquais les confréries dans lesquelles s'engager, les retraites spirituelles nous permettant de nous armer suffisamment pour embrasser cette dévotion, ou encore les lectures propices à nous faire grandir dans la compréhension de ces mystères. Je souhaite dès lors revenir sur un point en particulier qui me semble être celui qui touche le plus le cœur de Dieu. Il s'agit de l'anéantissement pur et simple de notre volonté propre. Cette entreprise ne se réalise pas en un jour. Elle nécessite de passer par des étapes intermédiaires pour nous habituer à haïr notre volonté pour lui préférer celle de Dieu, à s'en méfier le plus possible et, on en revient toujours au perpétuel recours, en questionnant toujours notre Sainte Mère. Sur l'adéquation de notre volonté au souverain bien. En ce temps de carême où les principaux sacrifices auxquels nous invite la Sainte Église sont le jeûne, l'aumône et la pénitence, il est important d'offrir chaque jour quelque chose de plus dans le domaine de la volonté. Je vous encourage donc, mes bien chers frères, à un examen de conscience particulier sur les attaches déréglées qui, sans être forcément des péchés, peuvent être un frein et un empêchement pour que la divinité puisse œuvrer en nous. Dans le domaine du divertissement, des interactions sociales, des zones de confort dans lesquelles nous nous complaisons, nous pouvons tous trouver chaque jour un renoncement, quand bien même il serait petit, à offrir à la Très Sainte Vierge. Si vous êtes fumeur, renoncez à votre envie qui peut être compulsive de temps à autre. Si vous êtes gourmand, éliminez le sucre, le beurre, le sel ou les épices. Si vous avez tendance à céder aux sollicitations sociales et amicales, octroyez à la Très Sainte Vierge un temps de silence et de prière au détriment des conversations mondaines. Si vous avez une addiction aux écrans, examinez les activités les plus chronophages et les moins utiles, voire les plus nuisibles, par exemple, regarder du sport, écouter de la musique, regarder des films, des séries, l'actualité, etc., pour les éliminer petit à petit, en commençant par les amoindrir. Je précise que je ne désigne pas toutes ces activités comme nécessairement mauvaises, simplement les réduire, voire les éliminer, quand notre devoir d'État ne nous y oblige pas, aide indéniablement à se rapprocher du bon Dieu. Moins les futilités auront de place dans nos vies, plus la sagesse éternelle en aura, et ainsi nous sanctifiera. Celui qui veille dès l'aurore pour la trouver ne la cherchera pas longtemps, car il la verra assise à sa porte. Livre de la Sagesse, chapitre 6. L'important étant de chaque soir, durant notre examen de conscience, après avoir considéré nos fautes et nos faiblesses, pouvoir offrir à notre mère une petite offrande, même si elle nous paraît ridicule, si elle est le fruit d'un renoncement à nous-mêmes, elle lui plaira sans aucun doute. Et elle nous dispensera la grâce nécessaire pour lui offrir davantage le lendemain. Elle ornera nos mérites pour les déposer au pied du trône de Dieu et nous plairons à notre adorable Créateur. Voilà, j'espère que par la grâce de Dieu, le pauvre esclave que je suis aura contribué à vous venir en aide par ses conseils et ses éclaircissements. Le Seigneur nous appelle chaque jour à nous convertir à nouveau et j'espère que cette fête de l'Annonciation sera pour nous tous un nouveau départ, un regain de force pour reprendre la route vers le salut avec toujours plus d'ardeur, de dévouement et d'amour pour Jésus et Marie. Et qu'elle nous donnera le courage pour renouveler le ferme propos de faire ce qui est en notre pouvoir pour devenir de meilleurs chrétiens. Je conclurai par un dernier conseil pour ceux qui n'ont pas encore embrassé cette si douce pratique qu'est la récitation de l'Angélus 3 fois le jour, 7h, midi et 19h. Voilà une résolution peu coûteuse mais si fructueuse qui vous refera vivre l'Annonciation tous les jours de votre vie. Vierge fidèle, priez pour nous. Daigné Seigneur, répandre votre grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de Jésus-Christ votre Fils, nous parvenions par les mérites de sa passion et de sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Par amour de ma reine, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris.